Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, les rebelles du M23 contrôlent la localité de Mouchaki en territoire de Massissi. Depuis ce vendredi matin, à l'issue de plus de 48 heures d'affrontement, le porte-parole de l'armée confirme cette information et condamne, selon ses propres termes, cette énième violation du cessez-le-feu édictée par les chefs d'État de la région. La diaspora congolaise de France apprécie sa participation au processus électoral en cours. Ses membres étaient nombreux hier jeudi à Paris devant l'ambassade de la République démocratique du Congo pour remplir le devoir civique. Notre invité est le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Le capitaine Anthony Mwalushai parle de l'évolution des opérations militaires contre les groupes armés dans la région de Beni. Mesdames, Messieurs, bonjour, au Nord Kivu, les rebelles du M23 contrôlent la localité de Mouchaki depuis ce vendredi matin à l'issue de plus de 48 heures d'affrontement. Mouchaki est à cheval entre les groupements Mufuni, Matanda et Mufuni, Karuba dans la chefferie de Baoundé en territoire de Massissi. Le porte-parole de l'armée qui confirme cette information condamne cette énième violation par le M23, selon lui, du cessez-le-feu édicté par les chefs d'État de la région. Des détails avec vous, Pierrot et la Mégie.
Les rebelles ont lancé tôt ce vendredi, vers 6 heures locales, une attaque sur les positions de l'armée dans la zone de Mouchaki par les villages Mouchounounou, dans le groupement Mufuni Matanda, dans la chefferie de Baoundé, confirme plusieurs sources dans la région. Ces sources civiles affirment que ces rebelles soutenus par le Rwanda contrôleraient déjà la route principale Sake-Massissi, centre au niveau de Mouchaki. Ils poursuivent aussi ces attaques les uns en direction de Karuba, les autres en direction de la colline des Malehé, surplombant la cité des Sake, ce qui pour nos sources coupe la route Massissi Centre d'une part et menace par la même occasion la route Sake-Minova sur la nationale numéro 2. Le porte-parole de l'armée parle d'une énième violation par les M23 du cessez-le-feu édicté par les chefs d'État de la région. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndike précise que l'armée continue à répondre à ces attaques sans plus. Sur l'autre front, des bombardements ont été signalés toute la matinée ce vendredi dans la zone de Kishishe, occupée toujours par les rebelles. Les mêmes rebelles auraient occupé dans la même région depuis hier les localités Kiekire et Kirumbu dans la profondeur du groupement Bachalimokoto à l'ouest de Kichanga, autour de la localité de Mweso.
Au sud Kivu, les forces des Nations Unies et les FARDC sont rentrées hier jeudi d'une mission conjointe menée sur le terrain à Touetoué, village situé dans le groupement Basimukinje 1, secteur d'Itombwe en territoire de Mwenga. L'objectif de ces patrouilles de combat était d'évaluer la situation sécuritaire et de recueillir les avis de la population locale sur les activités accrues des groupes armés locaux dans la région. Cette mission conjointe a permis de confirmer le rétablissement progressif de la stabilité après le redéploiement des troupes de FARDC dans le village de Touetoué. D'autres détails avec vous, Fiston Goma.
Sur place, une rencontre a été organisée avec le chef du village et d'autres notables locaux. Ce dernier a révélé qu'une restauration progressive de la stabilité a été observée dans la région après le redéploiement des troupes de FARDC dans le village. Les éléments Maïmaï qui harcelaient la population locale ont quitté la zone et se sont installés dans des villages situés au sud, notamment à l'endroit appelé Point Zéro et à Moulima. Ici, des barrières ont été établies pour collecter des taxes illégales auprès des passagers. Les acteurs locaux de Touetoué ont également confirmé les renforcements des présumés combattants Turwane Ogumeno dans la zone de Kalingi. Des déplacements réguliers d'hommes armés sont signalés de Minembwe à Kalingi pour des raisons encore non révélées. La MONUSCO de son côté a rappelé les systèmes d'alerte précoce et partagé des contacts pour étendre les réseaux d'alerte dans la zone, tout en encourageant la collaboration avec les FARDC et la MONUSCO pour renforcer les actions anticipatives et de protection dans la zone. Mardi dernier, le commandant de la 2e brigade, le général André et Onza a fait savoir l'avancée significative du processus de sensibilisation visant l'appui au programme PDDRCS ainsi que les activités conjointes entre civils et militaires dans la région des Hauts Plateaux. D'Ouvira Fistongo Mamayaba, la radio Kapi.
Toujours au sud Kivu, les groupes armés présents dans les territoires de Calais sont prêts à la démobilisation. Ils n'attendent que le signal en provenance du PDDRCS. Constant dégagé lors d'un café politique tenu à Calais hier jeudi par la section des affaires politiques de la MONUSCO Bukavu, l'échange a regroupé les représentants des couches sociales et des services étatiques de Calais. Jean Kassami nous fait le récit.
Les couches sociales qui ont participé aux échanges ont émis les vœux de voir le programme DDRCS s'implanter rapidement à Kalehe pour s'occuper de plus de 185 combattants locaux volontaires au désarmement, démobilisation et à la réintégration socio-économique. La population de Kalehe souhaite que le programme passe rapidement en action. Claude Magadjou, secrétaire exécutif de la chefferie de Buhavu.
Comme il y a évolution dans la mise en œuvre du programme, l'espoir est là. Et nous, comme acteurs au niveau de l'administration locale, nous promettons notre implication par l'entremise de Sa Majesté le Mwami et tous les conseils locaux de sécurité, la notabilité aussi et l'accompagnement de la société civile. Nous sommes tous mobilisés pour la paix, puisque la paix, c'est une affaire de nous tous. Et surtout que Calais, pour la province du Sud Kivu, occupe la deuxième position en tant que zone prioritaire. Il y a un espoir. Le programme d'abord est national, chapeauté aussi par son excellence le chef de l'État.
Le message a été bien capté par le coordinateur adjoint du PDDRCS au Sud Kivu qui a rappelé les rôles de ces programmes du gouvernement qui s'intéressent à la désactivation des groupes armés locaux et étrangers. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
En Ituri, des échanges de tirs ont été signalés la nuit de mercredi à hier jeudi entre les forces navales congolaises et la marine ougandaise sur le lac Albert. Pas de perte en vie humaine, mais 15 pêcheurs congolais et leurs embarcations ont été arrêtés par la marine ougandaise. De leur côté, les FARDC ont appréhendé deux embarcations de pêcheurs ougandais. Le député national Daniel Ouma demande au gouvernement de ces deux pays d'engager des pourparlers pour éviter la confusion sur la gestion du lac Albert qui est émaillé chaque fois des incidents. Des détails avec Isaac Remuyopi.
Les forces congolaises et ougandaises se sont croisées sur le lac Albert pendant les patrouilles et ont échangé des tirs, affirment des sources locales. Les deux parties s'acquisent mutuellement de violer les limites des eaux territoriales et d'encourager les pêcheurs de leurs pays respectifs d'utiliser des filets prohibés. 15 pêcheurs congolais, leur matériel de pêche ont été appréhendés par la force ougandaise acheminée au village lacustre de Butiaba. Les FARDC de l'unité navale ont à leur tour arrêté deux pêcheurs ougandais qui sont gardés à leur état-major à Maagiport, précise des sources locales. Selon les députés nationaux Élie de Mahagui, Daniel Ouma, ces incidents sont récurrents sur le lac Albert, suivis souvent des morts d'hommes. Il demande au gouvernement des deux pays d'engager des pourparlers pour éviter la confusion sur la gestion du lac qui cause des préjudices à leurs citoyens.
Il est plus que temps que le départ qui est un pourparler, que les gens puissent s'asseoir pour voir à quel niveau mettre une réglementation commune sur le lac Albert afin d'éviter que de pareils incidents se reproduisent.
Des sources locales souhaitent que le gouvernement de l'Ituri puisse contacter son homologue ougandais pour obtenir la libération des pêcheurs congolais. Nous n'avons pas encore réussi à joindre l'exécutif provincial de l'Ituri à ces sujets. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Appel à la mobilisation générale des jeunes pour intégrer les FARDC. Au total, 523, dont 9 filles et nouvelles recrues à Bandundu, viennent d'être envoyées à Kitona pour la formation militaire. L'information a été livrée par le commandant du 113e bataillon infanterie de Bandundu, le colonel Alain Bayo. La mobilisation est aussi grande dans les 5 territoires et la ville de Kikwit, où plusieurs jeunes se sont fait déjà enregistrer. Le ministre provincial de la jeunesse du Kwilu, Cédric Fumumapanda, invite tous ceux qui traînent encore les pas à se rendre au service de défense et de sécurité pour obtenir leur intégration. Il a été joint par Irène Boma.
Lors de la rencontre avec la jeunesse congolaise, le président a parlé à la jeunesse d'aller mobiliser des jeunes pour que les jeunes intègrent la FARDC. Aujourd'hui, un Kwilu a respecté le mot d'ordre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voyez, c'était hier qu'il y avait plus de 500 quelques jeunes évacués pour aller à Kinshasa, Kitona, pour la formation, pour défendre la patrie de notre pays. Vous savez, l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Nous sommes déterminés de défendre notre patrie. J'invite la jeunesse des Kwilu, en général, en particulier la jeunesse de Bandundu, d'intégrer la FARDC pour défendre notre patrie. Ça, c'est seulement la première vague. Il y avait aussi des jeunes qui de la ville de Yuguit. Il y avait plus de 400. Aujourd'hui, Bandundu, 500 quelques, je pense. Deux demain, nous allons déjà commencer à lancer la deuxième vague. Je pense avec plus de 1000 jeunes qui vont intégrer le FARDC pour défendre notre pays. Il y a aussi des engouements dans des territoires comme Gungu, Idiofa, Masimanimba, Bakata, Bulungu. Donc, nous sommes déterminés d'aller même dans des territoires pour sensibiliser, mobiliser des jeunes.
Opération d'identification et d'enrôlement des électeurs Bonne nouvelle pour la diaspora congolaise de France. La Commission électorale nationale indépendante vient de prolonger de 15 jours supplémentaires cette opération dans l'air de soit du 24 février au 10 mars 2023. Cependant, hier jeudi, à la veille de la clôture officielle de cette opération, un engouement des requérants a été observé à Paris devant l'ambassade de la République démocratique du Congo en France jusqu'au tour de 20h. Esther Ndalafina, notre envoyé spécial en France, vous avez vécu la bousculade devant l'ambassade.
Des dizaines de personnes membres de la diaspora congolaise de France se sont présentées jeudi à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs organisée par la CENI dans les locaux de l'ambassade de la RDC en France. Autour de 16 heures, les requérants venaient de plus en plus nombreux et impatients. Personne ne voulait manquer cette opportunité. En se précipitant pour forcer l'accès, intervient maintenant la bousculade. Pourquoi donc tous ces requérants sont venus s'enrôler à la veille de la clôture de cette opération? Monsieur Matou.
Pour obtenir une autorisation par rapport au travail, nous sommes dans un pays étranger. Même si c'était chez nous, il faut quand même une autorisation.
Selon Madame Endosa, l'information sur l'enrôlement n'a pas circulé.
On n'était pas informé, c'est de bouche à l'oreille que je suis arrivé ici. Le site, il n'y a rien, donc il fallait aller sur France 24 pour avoir toutes les infos.
C'est toujours dans cette bousculade qu'une bonne nouvelle de prolongation est annoncée pour baisser la tension de la diaspora. Monsieur Kindogo fait des recommandations à la CENI.
J'habite la province à 250 km de Paris. C'est pas normal. On aurait pu mettre des bureaux à distance quand même au niveau des provinces ou ça là. Il y a 10 régions en France.
Signalons que plusieurs requérants avaient déjà fait leur préenregistrement avant de se présenter au centre d'inscription de Paris, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Je venais de le dire, la CENI a prolongé de 15 jours les opérations d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle dont fait partie la province du Tanganyika. À Kalemie, il y a toujours engouement dans les centres d'inscription des électeurs qui ont ouvert le 25 janvier dernier. Le point avec Paulin Munanga.
Au centre Bakita Kalemie, il y a une foule de gens qui attendent pour se faire enrôler. Ce centre totalise 30 jours depuis le lancement des opérations. Il y a des bousculades, chacun veut entrer le premier et l'unique policier qui est en faction devant le centre se démène pour maintenir l'ordre. La plupart des personnes se réveillent très tôt le matin pour se faire inscrire sur la liste. L'objectif est de se faire enrôler à temps. Cependant, cela n'est pas toujours le cas comme l'indique Graciela Kaba, trouvée sur les lieux de l'enrôlement. Cela fait 4 jours que je tente pour me faire enrôler, mais sans succès. Il y a des gens qui arrivent ici vers 3h ou 4h du matin. Et à 5h, on ouvre les portes et nous nous enregistrons sur une liste. Chose drôle et chose grave, malgré que nous nous réveillons à 16h, nous ne sommes pas enrôlés. À la CENI Tanganyika, le secrétaire exécutif provincial reconnaît que le nombre attendu des personnes enrôlées n'est pas encore atteint. Kalemie, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Dans le même chapitre à Lubumbashi, les voix se lèvent pour dénoncer certaines pratiques qui sont de nature à décourager les requérants. Ils en appellent aux autorités de la CENI de rectifier les tirs pour le bon déroulement de ce processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. Explication avec vous, Jean Gandou.
C'est avec satisfaction que plusieurs requérants ont salué cette prolongation. Cependant, ils voudraient que la CENI soit rigoureuse au sujet de certaines pratiques. C'est notamment le fait pour certaines personnalités de s'amener dans les centres d'inscription accompagnés de plusieurs de leurs sympathisants qui, en arrivant au centre, ne respectent pas les protocoles établis et se font enrôler en priorité pendant que de nombreuses personnes attendent depuis des heures. D'autres, sous la casquette de leur fondation ou parti politique, s'adonnent à la même pratique aux grandes dames de plusieurs dizaines de requérants en attente du sésame, qui est le jeton qui accorde à son détenteur le droit d'accéder dans le centre pour l'obtention de la carte d'électeur. Lors de sa rencontre ce mercredi avec la secrétaire exécutive provinciale de la CENI dans le Haut-Katanga, Christian Mwando, membre de Ensemble pour la République, a fustigé une autre pratique.
Il y a des listes parfois préétablies des gens qui viennent pour se faire enrôler, de sorte que les gens qui vivent dans les quartiers, eux, n'arrivent pas à se faire enrôler, mais les gens enrôlent des gens qui sont sur des listes préétablies, et ça ne laisse pas présager de bonnes choses.
Au regard du nombre insuffisant de kits dans plusieurs centres, d'autres louchois demandent aussi à la CENI de renforcer les centres avec d'autres kits, notamment ceux déjà utilisés dans la première ère, pour permettre à plusieurs personnes d'obtenir aussi leur carte d'électeur. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Ce vendredi 24 février 2023, cela fait un an que la Russie a envahi l'Ukraine. Le conflit a provoqué une crise énergétique sans précédent dont les effets se font encore sentir sur les consommateurs et les entreprises. Et puis ce samedi, on vote au Nigeria pour la présidentielle et les législatives, un scrutin crucial pour les pays les plus peuplés du continent africain. Après deux mandats consécutifs, le président Muhammadu Buhari ne se représente pas. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de ce vote, engendré notamment par les pénuries. Même la commission électorale a alerté sur le manque de carburant, une réalité qui épuise les Nigériens au quotidien.
L'invité.
L'invité de ce journal est le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Le capitaine Anthony Mualushai parle de l'évolution des opérations militaires contre les groupes armés dans la région de Beni, deux ans depuis l'instauration de l'état de siège au Nord Kivu. Le capitaine Anthony Mualushai s'entretient avec André Kitingi.
Capitaine Anthony Mualushai, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Comment évoluent les opérations de traque contre les rebelles ougandais de l'ADF dans la zone de Beni?
Ce qui est vrai que tout le monde voit maintenant que les opérations évoluent très bien et cela se manifeste par la calmie qui règne dans l'ensemble de notre zone opérationnelle, bien qu'il y a encore des zones où l'ennemi est en train de montrer qu'il a encore la force, qu'il peut encore faire quelque chose. Mais cela ne nous inquiète pas parce que nous sommes tellement engagés à finir avec l'histoire des ADF dans cette région. C'est aussi la guerre asymétrique, c'est aussi ça le terrorisme. Quand il y a un seul ADF qui est encore vivant, constitue toujours une menace, mais cela ne dit pas qu'on n'a rien fait. Donc le travail a été bien fait. Nous aurons le temps à en parler avec vous au cours de cette interview, bien sûr.
Comment en finir avec l'activisme de ces rebelles ougandais de l'ADF qui se font parler d'eux, notamment dans la chefferie de Bachou? Pas plus tard que la semaine dernière, ils ont encore fait des victimes vers Mamové, dans le secteur de Beni Mbau, sur la route Beni Kassindi. On en parle toujours.
Mais écoutez, le grand travail a été déjà fait par les forces armées, mais nous avons réussi à déstabiliser la chaîne de commandement et surtout la chaîne de ravitaillement de ces terroristes ADF-MTM. C'est vraiment une victoire que je dirais à mettre dans l'effectif des FARDC, qui a réussi exactement à déstabiliser la logistique au sein des ADF, et cela a mis les ennemi en difficulté, et au-delà de tout ce que nous neutralisons pendant les opérations, l'ennemi est en train de perdre ses hommes blessés et aussi à cause de la famine.
Dans 2-3 mois exactement, l'état de siège va totaliser 2 ans. Quel bilan dressez-vous des opérations militaires?
Je vais vous dire que l'état de siège, c'est vraiment une période spéciale et ça nous a beaucoup aidé. Si peut-être il y a des gens, selon leur obédience politique, qui pensent que l'armée n'a rien fait, l'état de siège n'a rien donné. Je peux vous dire que pendant cette période spéciale de l'état de siège, l'armée congolaise a réalisé un bilan impeccable. Je vous ai parlé tantôt des 665 collaborateurs des ADF arrêtés par nos services spécialisés. Je peux vous dire que pendant cette période d'état de siège, nous comptons au moins 765 ADF neutralisés, corps, vie, au-delà d'autres corps que l'ennemi emporte en brousse. Je peux vous garantir que nous avons au moins 268 ADF capturés, sans compter des centaines des otages libérés pendant les opérations. Nous avons libéré plusieurs agglomérations qui étaient sous contrôle des ADF. Dans le Bachou, n'en parlons pas, il y avait chaque jour des incursions, chaque jour des attaques, chaque jour des tueries. Aujourd'hui, Bachou est en train d'être nettoyé. C'est grâce à cette période spéciale parce que les moyens ont été mis en place et les matériels. Donc, les hommes et les femmes en uniforme étaient tellement motivés pour en finir avec l'histoire des ADF. La vallée des Mwalika. Aujourd'hui, les cultivateurs sont en train de faire leur champ tranquillement dans cette vallée, bien que les opérations de nettoyage continuent parce que l'ennemi qui se trouve sur le long de la rivière Zeloubi le Souloubi est en train de faire le tout possible pour nous obliger de quitter là-bas et de lui laisser la place. Nous connaissons des manœuvres, mais rassurez-vous que l'armée est en train de faire un travail impeccable qui nécessite la collaboration et l'accompagnement de tout le monde.
La population est en train de se poser une question. Vous avez capturé autant des ADF, mais où sont-ils?
D'abord, je vais vous dire que les ADF emblématiques, là je fais allusion aux Kenyans, donc les étrangers en général, sont d'abord à Kinshasa, en train de répondre à leurs actes ignobles. La volonté de la population bénitienne, c'est de voir les audiences se tenir localement pour qu'elles assistent, n'est-ce pas, et qu'elles attendent et qu'elles voient avec leurs yeux les ADF et les témoignages. Donc, c'est notre souci aussi. Donc, au moment voulu où la justice sera prête, nous aurons à organiser des audiences, parce qu'il faut toujours faire la part des choses. Il y a la période pour les opérations et la période pour les audiences. Donc il y aura les audiences au moment venu, même ceux qui sont à Kinshasa reviendront ici et ils vont répondre devant la justice.
Capitaine Anthony Mualushai, je vous remercie.
C'est moi qui remercie la Radio Kapi.
Et c'était l'invité de ce journal, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Le capitaine Anthony Mualushai était à Beni au Nord Kivu avec André Kitengi. Et c'est la fin de ce journal qui a été supervisé et coordonné par Noëlla Luzituka-Bambi. Pierre Dassinois était à la technique et je voulais présenter moi-même Jean-Désiré Kanyama. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Kapi.